Chapitre 2 Le chalumeau de Chochim. La jeune cervelle de l'enfant s'enrichissait de nouvelles images grâce à l'extrême finesse de son ouïe. Il pénétrait de plus en plus loin dans la nature qui l'entourait. Au-dessus et autour de lui, continuait à régner une obscurité complète et impénétrable. Ses ténèbres étaient suspendues au-dessus de sa tête comme un lourd nuage. Et quoiqu'elles eussent pesé sur lui dès sa naissance, quoi qu'on pût croire qu'il s'habituerait à son malheur, il était cependant dans sa nature de tendre sans cesse, en quelque sorte instinctivement, à s'affranchir de ce sombre voile. Ses élans inconscients vers la lumière inconnue, qui ne laissaient pas à l'enfant un seul instant de répit, se traduisaient sur son visage par l'expression de plus en plus profonde d'un vague et pénible effort. Cependant, lui aussi, il goûtait des moments de contentement serein, de pures extases enfantines. C'était quand les impressions extérieures qui lui étaient accessibles lui procuraient quelques nouvelles et fortes sensations, l'initiaient à de nouveaux phénomènes du monde invisible. La grande et puissante nature ne demeurait pas complètement fermée au jeune aveugle. Ainsi, un jour qu'on l'avait mené sur un point isolé au bord de la rivière, il écoutait avec une attention particulière le doux clapotement de l'eau, loin sous ses pieds, et le cœur plein d'effroi, il s'accrochait à la robe de sa mère en écoutant rouler jusqu'au bas les petits cailloux qui s'échappaient de dessous ses pieds. À partir de ce moment, il se représentait la profondeur sous la forme d'un doux clapotement de l'eau au pied d'un rocher, ou d'un murmure effrayé de pierre roulant le long d'une pente. Le lointain tintait dans ses oreilles sous la forme d'une chanson qui mourait vaguement. Et quand le tonnerre éclatait en résonnant dans les cieux, remplissant l'espace et se perdant avec un grondement courroucé derrière les nuages, le petit aveugle écoutait avec attention, plein d'un effroi pieux. Son cœur s'épanouissait et dans sa tête, naissait une image grandiose de l'immensité des hauteurs célestes. C'est ainsi que les sons constituaient pour lui la principale et immédiate expression du monde extérieur. Les autres sensations ne servaient qu'à compléter les impressions de l'ouïe, dans lesquelles, comme dans des moules, se fondaient toutes ces images. De temps en temps, par quelques tillets d'après-midi, quand tout se taisait alentour, quand le mouvement humain s'apaisait et que dans la nature régnait ce calme particulier sous lequel on ne sent que le courant incessant et silencieux de la force vitale, sur le visage du jeune aveugle apparaissait une expression caractéristique. Il semblait que, sous l'influence de la paix extérieure, il surgit des profondeurs de son âme, des bruits perceptibles pour lui seul et auxquels il paraissait prêter l'oreille avec une attention extrême. En le voyant dans ces moments-là, on pouvait croire que la pensée indistincte qui venait de naître dans son esprit commençait à résonner en lui comme une vague mélodie. L'enfant avait déjà 4 ans passés. Il était mince et faible, mais il marchait, courait même librement dans toute la maison. Quiconque le voyait avancer d'un air assuré dans l'appartement, tournant juste là où il le fallait et trouvant facilement les objets dont il avait besoin, aurait pensé, si c'était un étranger, avoir devant lui non pas un aveugle, mais tout simplement un petit garçon étrangement concentré, aux yeux pensifs qui regardaient le vague lointain. Mais dans la cour déjà, il marchait à grand-peine, en frappant devant lui le sol de sa petite canne. Et s'il n'avait pas cette canne entre les mains, il aimait mieux se traîner par terre en tâtant vivement des doigts des objets qu'il rencontrait sur sa route. Il faisait une belle soirée d'été. L'oncle Maxime se prélassait dans le jardin, et le père était occupé, selon son habitude, quelque part dans un champ éloigné. Tout était calme dans la cour et partout le village s'endormait. Dans l'office, les causeries des serviteurs et des servantes avaient cessé. Il y avait déjà une demi-heure que l'enfant était couché. Il était à moitié endormi. Depuis quelque temps, dans sa tête, un étrange souvenir se rattachait à cette heure de sérénité. Certainement, il ne voyait pas comment se rembrunissait le ciel éclatant, comment les cimes noires des arbres se balançaient en dessinant leurs silhouettes dans l'azur des astres, comment s'assombrissait l'étoile chaume des bâtiments environnants, comment l'obscurité bleuâtre se répandait sur la terre avec l'or fin de la clarté lunaire et stellaire. Mais voilà déjà quelques jours qu'il s'endormait sous l'influence de quelque impression particulière qui le charmait et dont le lendemain il ne pouvait se rendre compte. Quand le sommeil obscurcissait de plus en plus ses sens, quand le frôlement confus des êtres s'interrompait complètement, quand il cessait de distinguer et l'aboiement éloigné du chien du village, et le chant du rossignol au-delà de la rivière, et le tintement mélancolique des grelots du poulain qui paissaient dans la prairie, quand ces murmures s'effaçaient et se perdaient, il lui semblait alors que tous ces bruits, se confondant en un seul ensemble coordonné et harmonieux, entraient doucement dans sa chambre et tournaient pendant longtemps au-dessus de son lit, le plongeant dans des rêves indéfinis, mais étonnamment agréables. Le lendemain, il se réveillait attendri et adressait à sa mère la question suivante. Mais qu'y avait-il donc hier soir? Qu'était-ce que cela? La mère ne savait pas de quoi il s'agissait et pensait que c'était des rêves qui agitaient le sommeil de l'enfant. Elle le mettait elle-même au lit et s'en allait, quand il commençait à s'endormir, sans remarquer rien de particulier. Mais le lendemain, le petit garçon lui parlait encore de quelque chose qui l'avait troublé fort délicieusement la veille. C'est si bon, maman. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Un soir, elle se décida à rester près du lit de l'enfant un peu plus longtemps pour s'expliquer cette étrange énigme. Elle était assise sur la chaise à côté de son lit, en touchant machinalement les mailles de son tricot et en écoutant la calme respiration de son Pietruccia. Il semblait complètement endormi quand, tout à coup, dans l'obscurité, sa douce voix se fit entendre. « Maman, tu es là? »« Oui, mon fils. »« Va-t'en, je t'en prie. Cela te craint. Et jusqu'à présent, cela n'est pas encore venu. Je me suis déjà assoupi et cela n'est pas encore arrivé. Va-t'en donc, je t'en prie. » La mère écoutait avec une profonde surprise ce murmure plaintif de l'enfant à demi ensommeillé, parlant de ses rêves avec assurance comme de quelque chose de réel. Néanmoins, elle se leva, se pencha sur son fils pour le baiser au front, et sortit doucement, décidée à s'approcher sans être aperçue de la fenêtre ouverte du côté du jardin. Elle avait à peine eu le temps de faire le tour quand l'énigme s'expliqua. Elle entendit tout à coup les sons doux et changeants d'un chalumeau qui venait de l'écurie, confondus avec le frôlement du vent du midi. Elle comprit aussitôt que c'était justement ces douces et naïves modulations d'une simple mélodie qui, s'exhalant précisément à l'heure incertaine de l'assoupissement, plongeait son petit Pierre dans des rêveries si agréables. Elle s'arrêta elle-même et resta pendant quelque temps debout, écoutant avec attention les mélodies pénétrantes et touchantes d'une chanson pétrussienne. Puis, complètement rassurée, elle se dirigea dans la sombre allée du jardin vers l'oncle Maxime. Il joue bien, ce Joachim, pensa-t-elle. C'est étrange. Quel sentiment délicat chez ce travailleur à l'extérieur si rude. Et Joachim jouait en effet très bien. Même le violon ne lui faisait pas peur. Et il fut un temps où les dimanches, personne dans l'auberge ne savait jouer mieux que lui le Kossatchok ou le joyeux Krakowiak polonais. Quand, assis sur le banc, au coin, le violon fortement serré contre son menton rasé, son haut bonnet d'astrakhan planté à la diable sur l'occiput, il touchait de son archet recourbé les cordes tendues, c'était chose rare que quelqu'un pût rester en place dans l'auberge. Même le vieux juif borgne qui accompagnait Joachim sur la contrebasse s'animait jusqu'au dernier point. Il semblait que son gauche instrument fût éreinté par les efforts qu'il devait se donner pour suivre avec ses lourdes notes de basse les notes légères, chantantes et sautillantes du violon de Joachim, et le vieux Jacob lui-même, avec de forts mouvements d'épaules, tournait sa tête chauve recouverte d'une calotte et sursautait tout entier à la mesure de la pétulante et agile mélodie. Que dire donc des chrétiens dont les jambes sont depuis longtemps conformées de telle manière qu'au premier son d'un joyeux air de danse, elles commencent d'elles-mêmes à se plier et à frétiller sur place. Mais depuis que Joachim s'était épris de Maria, la domestique du seigneur voisin, il cessa d'aimer autant son gai violon. Il est vrai que cet instrument ne l'avait pas aidé à vaincre le cœur de l'alerte fille, et Maria préféra la face rasée d'un laquais allemand de son maître à la hure moustachue de l'artiste petit Russien. Dès lors, on n'entendit plus son violon dans l'auberge et aux veillées. Il l'accrocha à un clou de l'écurie, sans s'inquiéter si, à cause de l'humidité et de sa négligence, les cordes de son instrument, autrefois favori, ne se casseraient pas une à une. Et le bruit qu'en mourant elle faisait entendre était tellement plaintif que les chevaux hennissaient en témoignage de sympathie et tournaient avec étonnement leur tête vers le musicien. À la place du violon, Joachim acheta d'un marchand ambulant, un montagnard des Carpates, un chalumeau en bois. Il pensait évidemment que ces notes douces et tendres correspondraient mieux à sa destinée amère, exprimeraient mieux le chagrin de son cœur. Mais le chalumeau montagnard trompa ses espérances. Il en essaya une dizaine de toutes les manières, qu'il écourtait, trempait dans l'eau, séchait au soleil, suspendait à l'aide d'une ficelle sous le toit pour les éventer, mais rien n'y faisait. Le chalumeau montagnard n'obéissait pas au cœur du petit Russien. Il sifflait là où il fallait chanter, criait là où il attendait de lui un tri langoureux, et en général ne se pliait guère à l'humeur de son âme. Alors il se fâcha contre tous les montagnards vagabonds, s'étant complètement convaincu qu'aucun d'eux n'était en état de lui fournir un bon chalumeau. Enfin, il se décida à en fabriquer un de ses propres mains. Pendant quelques jours, il erra, ses gros sourcils froncés, dans les champs et les marécages, s'approchant de chaque saule, examinant ses branches, en coupant quelques-unes, et à ce qu'il semblait, il ne trouvait toujours pas son affaire. Ses sourcils continuaient donc à rester froncés, et il allait en avant poursuivant ses recherches. Enfin, il tomba sur un endroit près d'une petite rivière qui coulait nonchalamment. L'eau balançait à peine les têtes blanches des nénuphars d'une petite crique. La multitude des saules, serrés l'un près de l'autre et penchés tristement, songeusement vers la sombre et calme profondeur des ondes, empêchait les vents d'y arriver. Joachim écarta les arbres, approcha de la petite rivière, s'arrêta un instant, et en un clin d'œil, il sentit que là, justement, il allait trouver ce qu'il lui fallait. Les rides de son front s'effacèrent. Il tira de la tige d'une de ses boîtes un couteau pliant attaché à une petite courroie, promena son regard attentif sur les arbres de la Saulaie, chuchotant entre eux d'un air pensif, et s'approcha délibérément d'un tronc haut et droit qui se balançait au-dessus de la berge escarpée, creusée par les eaux. Il lui donna un coup de ses doigts sans cause évidente, reconnut avec joie qu'il se balançait avec des oscillations élastiques dans les airs, écouta avec attention le murmure de son feuillage et secoua la tête. Oh, le voilà donc enfin, dit-il tout heureux. Et il jeta dans la petite rivière toutes les branches qu'il avait précédemment coupées. Le chalumeau fut réussi à merveille. Après avoir séché le saule, il en brûla le cœur avec un fil de fer rougi, perça de la même manière 6 trous ronds, coupa de biais le septième et boucha solidement son extrémité avec un bouchon de bois où il laissa une petite fente. Puis il le fit sécher 1 semaine entière au bout d'une ficelle mince, et l'instrument resta de la sorte brûlé par le soleil et éventé par les vents sonores. Après quoi il le racla soigneusement à l'aide de son couteau, le polit avec du verre et le frotta frottement avec un morceau de gros drap. Le sommet en était tout à fait rond. À partir de son milieu descendaient des facettes égales et comme polies, sur lesquelles il imprima, à l'aide de morceaux de fer recourbés et rougis au feu, différentes arabesques compliquées. Après avoir rapidement joué quelques gammes roulantes, il secoua la tête d'un air de contentement et le cacha à sa portée près de son lit. Il ne voulait pas faire son premier essai musical au milieu des agitations de la journée. Mais en revanche, le soir même, on entendit s'exhaler du côté de l'écurie des modulations tendres et mélancoliques, des notes vibrantes. Joachim était complètement satisfait de son chalumeau. Il semblait qu'il fît partie de lui-même, que les sons produits par l'instrument coulassent de sa propre poitrine réchauffée et attendrie. Chaque dégradation du sentiment qu'il agitait, chaque nuance de son violent chagrin vibrait immédiatement dans son chalumeau merveilleux, s'en détachait doucement et s'envolait harmonieuse au milieu de la nuit, qui écoutait attentive, sans perdre une seule note. Et à présent, Joachim était amoureux de son chalumeau et célébrait avec lui sa lune de miel. Dans la journée, il remplissait très ponctuellement son devoir de valet d'écurie, menait les chevaux à l'abreuvoir, les attelait, sortait avec Madame ou avec Maxime. Mais de temps en temps, quand il jetait un coup d'œil du côté du village voisin où demeurait la cruelle Maria, le chagrin commençait à lui ronger le cœur. Mais à la tombée de la nuit, il oubliait tout au monde, et l'on eût dit que l'image même de la jeune fille aux sourcils noirs se couvrait d'un voile. Cette image perdait de sa précision cuisante, se dessinait devant lui sur un fond troublé, juste de quoi imprimer au son du chalumeau merveilleux un caractère de pensive mélancolie. C'est en proie à cette extase musicale, qui s'épanchait tout entière en de vibrantes mélodies, que Joachim était couché ce soir-là dans son écurie. Le musicien a oublié complètement l'inhumaine beauté, perd même de vue sa propre existence, quand tout à coup il tressaillit et se souleva sur son lit. Au passage le plus pathétique, il sentit qu'une petite main promenait rapidement ses doigts légers sur son visage, se glissait jusqu'à ses mains, et puis se mettait à tâter en quelque sorte fiévreusement le chalumeau. Et en même temps, il entendit près de lui une respiration rapide, haletante et saccadée. Il prononça vivement la formule de conjuration habituelle Tsultopi pectopi. Puis, est-ce l'envoyé de Dieu ou du diable? Ajouta-t-il aussitôt, pour savoir s'il n'avait pas affaire à l'esprit malin. Mais le rayon de la lune qui s'insinuait par la porte ouverte de l'écurie lui montra immédiatement qu'il s'était trompé. Près du lit se tenait le petit Panitch, qui tendait avidement vers lui ses petits bras. Une heure après, la mère, désirant jeter un coup d'œil sur son pied troussant endormi, ne le trouva plus au lit. Au premier moment, elle eut peur, mais bientôt l'instinct maternel lui souffla où il fallait aller chercher le garçonnet. Jorim devint tout confus quand, s'étant arrêté pour reprendre haleine, il vit subitement dans l'écurie sa bonne maîtresse. Elle était là, évidemment, depuis quelques instants déjà, écoutant son jeu et regardant l'enfant qui s'était assis sur le lit, enveloppé de la demi-pelisse de Jorim, et continuait toujours à prêter une oreille avide à la chanson interrompue. Dès lors, chaque soir, le garçonnet allait trouver Jorim dans l'écurie. L'idée ne lui venait pas même de prier Jorim de jouer quelque chose dans la journée. Il semblait que l'agitation et le mouvement du jour excluaient de son imagination la possibilité de ces douces mélodies. Mais aussitôt que le crépuscule tombait sur la terre, Pierre éprouvait une impatience fébrile. Le thé du soir, le souper, n'était pour lui qu'une indication, lui annonçant que l'instant désiré approchait. Et la mère, qui d'instinct n'aimait pas ces séances musicales, ne pouvait cependant défendre à son cher enfant de courir chez le palefrenier et de passer avec lui à l'écurie 2 heures au moins avant de se coucher. Ces heures étaient à présent pour le jeune garçon les moments les plus heureux de la journée, et la mère constatait avec une cuisante jalousie que les impressions du soir agissaient encore sur l'enfant pendant la journée suivante, et qu'à ses caresses même, il ne répondait plus avec le même amour, et que jusque dans ses bras, jusque sous ses baisers, il se ressouvenait avec un air pensif de la chanson savourée la veille. Alors elle se rappela que, les années auparavant, dans la pension de Madame Radietzky, elle étudiait, entre autres arts d'agrément, la musique. Il va sans dire qu'en vérité ce souvenir n'était pas des plus agréables, car il se liait avec celui d'une maîtresse de piano, Mademoiselle Klaps, une vieille fille allemande, très maigre, très prosaïque et surtout très sévère. Cette demoiselle extrêmement bilieuse, qui cassait très habilement les doigts de ses élèves pour leur donner la souplesse nécessaire, tuait en même temps chez ses pupilles, avec un succès remarquable, tout sentiment de la poésie musicale. La seule présence de Mademoiselle Klaps, grâce à ses procédés pédagogiques, la remplissait d'effroi et lui était insupportable. Voilà pourquoi, une fois sortie de la pension, et même quand elle fut mariée, Anna Mikhailovna n'eut même pas l'idée de reprendre ses exercices musicaux. Mais à présent, en écoutant le flûtiste petit Russien, elle sentait s'éveiller dans son âme, avec la jalousie, le sentiment de la mélodie et l'image de la maîtresse allemande disparaître peu à peu. Le résultat fut que Madame Popielski pria son mari de faire venir un piano de la ville. Mais comme tu voudras, ma colombe, répondit le mari exemplaire. Il me semblait que tu n'aimais pas trop cet instrument. Le même jour, une lettre était envoyée à la ville, mais jusqu'au moment où le piano put être acheté et amené dans la maison, il devait se passer au moins 2 à 3 semaines. Et pendant cet intervalle, chaque soir, résonnaient à l'écurie des appels mélodieux, et Pierre y courait, sans même plus demander la permission à sa mère. L'odeur sui generis de l'écurie se mêlait à l'arôme de l'herbe sèche et à la senteur aiguë des courroies de cuir mégi. Les chevaux mâchaient paisiblement au bruit léger du foin qu'ils tiraient du râtelier. Et quand le flûtiste s'arrêtait pour reprendre haleine, on entendait distinctement, venant du jardin, le murmure des hêtres verts. Le petit Pierre restait assis comme charmé et écoutait. puis n'interrompait jamais le musicien, et ce n'était qu'au moment où celui-ci s'arrêtait lui-même, et où le silence régnait pour 2 ou 3 minutes, que l'enchantement muet du petit garçon faisait place à des transports passionnés. Il tendait ses bras vers le chalumeau, le prenait dans ses mains tremblantes et l'appliquait contre ses lèvres. Et comme alors son haleine était entrecoupée, les premiers sons en étaient indécis et chevrotants. Mais peu à peu, il commença à se rendre de plus en plus maître de ce simple instrument. Jorim disposait ses doigts sur les trous, et quoique sa petite main pût à peine les couvrir, il s'habitua néanmoins assez vite au son de la gamme. Et chaque note avait pour lui sa physionomie particulière, son caractère propre. Il savait déjà dans lequel de ses trous vivait chacun de ses sons, d'où il fallait le faire sortir. Et parfois, quand sous les doigts de Joachim naissait quelque simple mélodie, les doigts de l'enfant commençaient aussi à remuer. Il se représentait avec une évidence complète les tons successifs disposés à leur place habituelle. Enfin, au bout de 3 semaines, le piano arriva de la ville. Pierre était dans la cour et écoutait anxieusement le va-et-vient des ouvriers qui se préparaient à entrer dans l'appartement la musique qui venait d'arriver. Elle était évidemment bien pesante, car au moment où l'on commençait à l'enlever, le chariot craquait et les hommes souffraient et respiraient péniblement. Ils se mirent en marche à pas cadencés et lourds, et à chacun de leurs pas, quelque chose d'étrange résonnait, grondait et tintait au-dessus de leur tête. Lorsqu'on déposa par terre, au salon, cette singulière musique, elle fit de nouveau retentir un grondement sourd, comme si elle menaçait quelqu'un de sa puissante colère. Tout cela produisait sur Pierre une impression voisine de la peur, et ne prédisposait guère l'enfant en faveur du nouvel hôte inanimé, mais courroucé. Il était allé dans le jardin et n'entendit pas les hommes installer l'instrument, et le pianiste arrivé de la ville le remontait avec sa clef, essayait les touches et accordait les cordes en fil de fer. Et ce ne fut que quand tout fut fini que la mère fit appeler Pierre. À présent, armé d'un instrument viennois sorti du meilleur atelier, Anna Mikhailovna était sûre d'avance de triompher du simple chalumeau rustique. Elle était sûre que Pétya oublierait maintenant et l'écurie et le flûtiste, et que toutes ses joies, c'est d'elle qu'il les recevrait. Elle jeta un coup d'œil joyeux sur l'enfant et sur Joachim qui entrait timidement avec Maxime. Le valet d'écurie, qui avait demandé la permission d'écouter la musique d'au-delà des mers, se tenait près de la porte, les yeux craintivement fixés sur le plancher et laissant pendre son toupet. Quand l'oncle Maxime et Pétya eurent pris place sur la chaise longue, Anna Mikhailovna donna subitement un coup sur les touches du piano. Elle jouait à un morceau qu'elle avait appris en perfection dans la pension de Madame Radielski, sous la direction de Mademoiselle Klaps. Oh, c'était quelque chose de pas trop bruyant, mais d'assez compliqué, qui demandait une souplesse notable des doigts. Au concours de fin d'année, Anna avait reçu pour ce morceau des éloges mérités qui s'adressaient moins à elle-même qu'à sa maîtresse de piano. À présent, la jeune femme le jouait dans le dessein de remporter une autre victoire, celle d'attirer plus près d'elle le cœur de son fils qu'avait conquis le chalumeau du petit Russien. Cette fois, cependant, ses espérances furent déçues. L'instrument viennois n'était pas de taille à se mesurer avec la branche de saule de l'Ukraine. Il est vrai que l'instrument viennois avait pour lui des moyens puissants, un bois précieux, des cordes excellentes, le rare travail d'un ouvrier viennois, la richesse d'un vaste registre. Mais le chalumeau de l'Ukraine, lui aussi, trouva en revanche, puisqu'il était chez lui, des alliés dans la nature même de l'Ukraine natale. Avant que Joachim l'eût coupé avec son couteau, qu'il eût brûlé le cœur du bois avec un morceau de fer rougi, il se balançait ici, au bord de la petite rivière natale que l'enfant connaissait depuis si longtemps. Il était caressé par le même soleil de l'Ukraine, éventé par le même vent que l'enfant, jusqu'au moment où l'œil perçant du flûtiste l'avait remarqué sur le bord escarpé, creusé par les eaux. Et à présent, le nouveau venu avait de la peine à lutter contre un simple chalumeau local, parce que celui-ci s'était révélé à l'aveugle, à l'heure douce de l'assoupissement, dans le murmure mystérieux de la nuit, au frôlement des êtres qui s'endormaient au sein même de la nature natale. Madame Pobielski était également loin d'avoir la force de Joachim. Il est vrai que ses doigts fins étaient plus agiles et plus souples. La mélodie qu'elle jouait était plus savante et plus riche. Et Mademoiselle Klapp s'était donné beaucoup de peine pour former son élève. Mais en revanche, Joachim avait le sentiment musical inné. Il aimait et souffrait. Il s'adressait avec son amour et son chagrin à sa nature natale. C'était cette nature qui lui apprenait ses airs simples, aussi bien que les bruits de la forêt et le doux bruissement des herbes dans les steppes et la mélancolique, la vieille chanson qu'il avait entendue dans le temps au-dessus de son berceau d'enfant. Oui, l'instrument viennois avait de la peine à vaincre le chalumeau du petit Russien. Une minute ne s'était pas encore écoulée que l'oncle Maxime frappa tout à coup rudement de sa béquille contre le plancher. Quand Anna Mikhailovna tourna la tête de son côté, elle vit, sur le visage pâli de Pierre, la même expression qu'avait l'enfant gisant sur l'herbe le jour mémorable de la première promenade du printemps. Joachim regarda le petit aveugle avec sollicitude, et jetant un coup d'œil dédaigneux sur la musique allemande, il se retira en faisant sonner fortement ses gros souliers sur le plancher du salon. Cet insuccès coula à la pauvre mère beaucoup de larmes et quelque honte. Comment, elle, la gracieuse Madame Popielski, qui avait entendu le tonnerre des applaudissements d'un public choisi, se sentir aussi cruellement vaincue et par qui? Par un simple valet d'écurie avec son stupide chalumeau. Quand elle se rappelait le regard dédaigneux du petit Russien, après son concert manqué, les couleurs de la colère couvraient son visage, et elle détestait sincèrement ce dégoûtant valet. Et cependant, chaque soir, quand son fils s'en allait à l'écurie, elle ouvrait la fenêtre, s'y accoudait et prêtait avidement l'oreille. D'abord, elle écoutait avec un sentiment de dédain irrité, uniquement préoccupée de saisir le côté ridicule de ce sot gazouillement. Mais petit à petit, sans même s'en rendre compte elle-même, le sot gazouillement commençait à s'emparer de son attention, et elle s'absorbait dans ses mélodies tristement rêveuses. En se reprenant, elle se demandait en quoi consistait leur attrait, le secret de leur charme. Et peu à peu, ces soirées bleues, les ombres indéfinies du crépuscule et l'admirable harmonie de la chanson avec la nature résolvaient cette question. Oui, pensait-elle à part soi, vaincue et conquise à son tour, il y a là un sentiment vrai, tout à fait particulier, une poésie pénétrante qu'on n'apprend pas dans les cahiers de musique. Et c'était la vérité. Le secret de cette poésie consistait dans cette merveilleuse union entre le passé mort depuis longtemps et la nature éternellement vivante, éternellement parlante au cœur de l'homme, la nature témoin de ce passé. Et lui, le rude moujik au bas de ciré de goudron, aux mains calleuses, portait en lui cette harmonie, ce vivant sentiment de la nature. Et elle s'avouait que la fièvre panique s'effaçait devant le valet d'écurie. Elle oubliait ses rudes vêtements et son odeur de goudron, et à travers les rythmes touchants de la chanson, elle se rappelait son visage débonnaire, avec une expression douce, des yeux gris et ce sourire timide et fin au-dessous de ses longues moustaches. De temps en temps, la colère colorait de nouveau le visage et les tempes de la jeune femme. Elle sentait que, dans la lutte pour le cœur de son enfant, elle s'était mise au niveau de ce valet, sur le même pied, et que c'était lui, le valet, qui avait vaincu. Et les arbres bruissaient au-dessus d'elle dans le jardin. La nuit commençait à allumer de plus en plus nombreux ses feux dans l'azur du ciel et répandait sur la terre une obscurité bleuâtre. En même temps, dans l'âme de la jeune femme, les mélodies de Jorim versaient un chagrin brûlant. Elle s'humiliait chaque jour davantage et apprenait de mieux en mieux à posséder le secret simple de la poésie pure, innée et sans artifice. Oui, le moujik Jorim éprouvait un sentiment vif et sincère, et elle, était-il possible qu'elle n'eût pas une parcelle de ce sentiment? Mais alors pourquoi est-ce donc qu'elle sent une telle chaleur dans sa poitrine, que son cœur bat d'une façon si inquiétante, et que les larmes sont prêtes, malgré elle, à jaillir de ses yeux? N'est-ce pas le sentiment intense de l'amour pour son enfant aveugle et déshérité, qui s'éloigne d'elle pour courir vers Jorim, et auquel elle ne s'est pas procuré un plaisir aussi vif? Elle se rappelait l'expression de douleur provoquée par son jeu sur le visage du garçon. Alors des larmes brûlantes coulaient de ses yeux et elle avait peine à contenir les sanglots qui lui étreignaient la gorge. Pauvre mère! La cécité de son enfant était devenue son éternelle infirmité incurable à elle aussi. Elle se traduisait par sa tendresse exagérée et maladive, par ce sentiment qui l'absorbait tout entière et qui liait par mille fibres invisibles son cœur endolori au cœur souffrant de son enfant. C'est pourquoi des choses qui, chez une autre personne, n'auraient provoqué qu'un peu de dépit, cette étrange rivalité avec un flûtiste petit Russien, était pour elle une sourde souffrance intolérable. Ainsi passait le temps, sans soulagement pour elle, mais en revanche non sans quelque utilité. Elle commença à sentir en elle les afflux du même sentiment vif de la mélodie et de la poésie qui l'avait si vivement charmée dans le jeu de Jorim. Alors l'espoir renaquit dans son cœur. Sous l'influence de subtils accès de confiance en soi-même, elle s'approcha plusieurs fois par jour de son instrument et en souleva le couvercle, avec l'intention d'étouffer sous le regard terrible des touches le faible chalumeau. Mais à chaque fois, un sentiment d'incertitude et de pudique appréhension l'en empêchait. Elle se rappelait le visage de son enfant souffrant et le regard dédaigneux de Jorim, et ses joues brûlaient de honte dans la nuit, et sa main se bornait à voltiger sur les touches avec une avidité effrayée. Néanmoins, de jour en jour, l'intime conscience de sa force augmentait en elle, et choisissant un moment où l'enfant jouait entre chien et loup dans une allée éloignée où était à se promener, elle se mettait devant le piano. Bon, ne fut point trop satisfaite de ses premiers essais. Ses mains n'obéissaient pas à sa conception musicale. Les sons de l'instrument paraissaient d'abord étrangers à la disposition de son âme. Mais petit à petit, cette disposition se reflétait en eux avec une aisance et une ampleur croissantes. Les leçons du petit Russien n'étaient pas perdues. et son ardent amour maternel, sa subtile intuition de ce qui empoignait par excellence le cœur de son enfant, lui permirent de s'assimiler bien vite ses leçons. À présent, ses mains ne jouaient plus des compositions compliquées et bruyantes, des morceaux classiques. C'était une douce chanson, une triste rêverie de l'Ukraine qui résonnait et pleurait dans les pièces sombres, attendrissant son cœur maternel. Enfin, elle acquit assez d'assurance pour entrer en lutte ouverte avec son adversaire. Et voilà que chaque soir commença à s'engager entre la demeure seigneuriale et l'écurie de Yorim un étrange concours. Les tris changeants du chalumeau s'envolaient doucement de la remise aux toiles chaumes, et à leur rencontre, venant des fenêtres grandes ouvertes du château, qui reflétaient à travers le feuillage des œillettes la lumière de la lune, couraient les accords charmants et pleins du piano. D'abord, ni Pietroussia ni Joachim ne voulaient faire attention à cette musique artificieuse de la maison du maître, musique contre laquelle ils étaient prévenus. L'aveugle fronçait même les sourcils et stimulait avec impatience Joachim quand l'autre s'arrêtait. Et joue donc, joue, joue! Mais 3 jours ne s'étaient pas écoulés que ces arrêts devinrent de plus en plus fréquents. Joachim mettait à chaque instant son chalumeau de côté et commençait à prêter l'oreille avec une attention de plus en plus grande. Et pendant les pauses, le jeune garçon, lui aussi, s'oubliait à écouter et ne pensait plus à stimuler son ami. Enfin, Joachim prononça d'un air pensif. Tiens, mais c'est magnifique! Alors, voilà donc comment il est, cet instrument-là. Et puis, de l'air pensif et distrait d'un homme qui écoute quelque chose avec attention, il prit l'enfant dans ses bras et traversa avec lui le jardin en se dirigeant vers la fenêtre ouverte. Il s'imaginait que Madame jouait pour son propre plaisir et ne s'inquiétait pas d'eux. Mais Anna Mikhailovna comprenait que le chalumeau rival s'était tu. Elle entrevoyait sa victoire et son cœur battait de joie. En même temps, sa colère contre Joachim tombait complètement. Elle était heureuse et reconnaissait que c'était à lui qu'elle était redevable de ce bonheur. Il lui avait appris à reconquérir son enfant. Et si désormais son fils allait recevoir d'elle des trésors entiers de nouvelles impressions, c'est à lui, le moujik flûtiste, leur maître commun, qu'ils devraient tous les deux en savoir gré. La glace était rompue. Le lendemain, Pietroussia pénétra avec une curiosité craintive dans le salon où n'était pas entré depuis le moment où il s'était installé l'hôtel l'hôte de la ville, qui lui avait paru si méchant et si criard. Maintenant, ses mélodies de la veille avaient conquis l'ouïe du garçonnet et modifié ses rapports avec l'instrument. Avec les derniers vestiges de son ancienne timidité, il s'approcha de la place où se trouvait le piano, s'arrêta à une certaine distance et prêta l'oreille. Il n'y avait personne dans le salon. La mère était assise avec son ouvrage dans l'autre pièce et, retenant sa respiration, le regardait, admirant chacun de ses mouvements, chaque changement d'expression qui survenait sur le visage nerveux de l'enfant. Il tendit de loin sa main, il toucha la surface polie de l'instrument et se retira aussitôt en arrière, timidement. Après avoir répété cette expérience 2 ou 3 fois, il s'approcha davantage et se mit à étudier soigneusement le piano, se penchant jusqu'à terre pour en tâter les pieds et faisant le tour de tous ses côtés libres. Enfin, sa main tomba sur les touches lisses. Le son faible d'une corde résonna indécis. Le garçon écouta pendant longtemps les vibrations déjà abolies pour lui de la mer. Puis avec l'expression d'une attention extrême, il frappa la touche suivante. Ensuite, promenant sa main sur tout le clavier, il arriva aux notes élevées. À chaque son, il s'arrêtait un peu de temps, et un à un, il vacillait, vibrait et mourait dans l'espace. Le visage de l'aveugle exprimait avec une tension excessive un plaisir extrême. Il était évident qu'il admirait chaque son en particulier, et déjà, dans ses délicats soucis des sons élémentaires, partie constituante d'une future mélodie, se révélait comme un tempérament d'artiste. Mais en même temps, il apparaissait que l'aveugle attribuait en outre des qualités propres à chacun des sons. Et lorsque, sous ses mains, jaillissait une note gaie et éclatante du registre, il levait son visage animé, comme pour saluer au vol cette note sonore qui fusait. Par contre, à la vibration sourde, profonde et à peine perceptible d'une note basse, il penchait l'oreille, lui semblait que cette note profonde allait rouler sur le plancher, s'éparpiller et se perdre dans les coins éloignés de l'appartement. L'oncle Maxime ne faisait que tolérer toutes ces expériences musicales. Si étrange que cela pût paraître, le penchant du garçonnet, si clairement manifesté, déterminait chez l'invalide un double sentiment. D'un côté, cette violente inclination indiquait indubitablement que l'enfant était doué de capacités musicales réelles et présageait en partie l'avenir qui pouvait lui être réservé, et d'un autre côté, à cette constatation s'ajoutait dans le cœur du vieux soldat une vague impression de désenchantement. « Oui, certainement, raisonnait Maxime, la musique est une grande force qui permet de dominer les cœurs de la foule. Aveugle, il va cependant rassembler autour de lui des centaines de petits maîtres et des dames parées. Il va jouer pour eux des valses, des nocturnes, que sais-je encore, à dire la vérité. Les connaissances musicales de Maxime n'allaient pas au-delà de ses valses et de ses nocturnes. » Tandis qu'eux essuieront leurs larmes avec leurs mouchoirs. Oh, le diable m'emporte, c'est pas cela que j'aurais désiré. Mais que faire? Le petit haut est aveugle, qu'il devienne donc ce qu'il pourra devenir. Mais tout de même, j'aurais mieux aimé qu'il se tournât au moins vers le chant. La chanson ne parle pas à lui seul pour nous plonger dans un attendrissement indéfinissable. Elle suggère des images, réveille la pensée dans la tête et le courage dans le cœur. « Oui, Jorim, dit-il un soir en entrant à la suite de Pierre dans la remise. « Laisse donc là, pour une fois au moins, ton chalumeau. C'est beau pour les gamins de la rue ou pour les bergers dans les champs. Mais toi, tu es tout de même un homme, quoique cette stupide Maria ait fait de toi un vrai veau. » Fille, j'en ai honte pour toi, je t'assure. La jeune fille s'est détournée de toi et toi tu en perds la tête. Tu ne fais que siffler comme une caille dans sa cage. En écoutant ce long discours de Maxime irrité, Joachim souriait dans l'obscurité de son courroux sans cause. La comparaison des gamins et des bergers avait seule fait naître en lui le sentiment d'une légère offense. « Ne dites pas cela, notre maître, commença-t-il. Il n'y a pas un seul berger de l'Ukraine qui possède un chalumeau pareil. Les autres ne sont que des appâts, tandis que celui-ci... Écoutez plutôt. » Il boucha de ses trous tous les trous de son instrument et prit deux tons en octave en faisant admirer la plénitude des sons. Maxime cracha en signe de dédain. « Pauvre, que le ciel me pardonne !» Mais il est donc complètement abruti, ce gars. Mais que m'importe ton chalumeau? Ils sont tous les mêmes, les chalumeaux, et les femmes aussi, et ta Maria avec. Oh, t'aurais mieux fait de nous chanter une chanson, si tu peux, une bonne chanson de nos pères ou de nos grands-pères. Maxime Yazenko, petit Russien lui-même, était un homme simple dans ses rapports avec les domestiques et les moudjiks. Il criait et grondait souvent, mais en quelque sorte d'une façon inoffensive. C'est pourquoi la domesticité lui parlait fort librement, quoique de façon respectueuse. Et pourquoi pas, répondit Joachim à la proposition du seigneur. Moi aussi, je chantais dans le temps, et pas plus mal que les autres. Mais peut-être notre chanson paysanne ne sera pas non plus à votre goût, barine, ajouta-t-il pour piquer son interlocuteur. Plaisante donc pas, mon garçon, dit Maxime. Une bonne chanson ne peut pas être comparée à un air de chalumeau, pourvu qu'elle soit bien chantée. Écoutons, Pietroussa, la chanson de Joachim. La comprendras-tu seulement, mon petit? Est-ce que ce sera une chanson de valet? Demanda le petit garçon. Je comprends ce langage. Maxime soupira. Eh, mon petit, ce sont point des chansons de valet. Ce sont les chansons d'un peuple libre et fort. Tes aïeux maternels les chantaient dans les steppes, sur le Dniepr, sur le Danube et sur la mer Noire. Tu les comprendras un jour, mais pour le moment, je crains autre chose. En effet, Maxime craignait qu'une autre chose ne demeurât inintelligible à l'enfant. Il pensait que les vives images de ces chansons ont absolument besoin des sensations optiques pour pouvoir parler au cœur. Il craignait que l'ignorante et obscure cervelle de l'enfant ne fût pas en état de s'assimiler le langage figuré de la poésie populaire. Et il oubliait que les anciens Bayans, les Kobsars et les joueurs de bandoura étaient pour la plupart des aveugles. Il est vrai de dire que souvent c'était une vie misérable ou quelque mutilation qui forçait un estropié à prendre une guitare ou une mandore pour obtenir grâce à elle en mendiant le pain quotidien. Mais tous n'étaient pas des mendiants ou des ouvriers aux voix nasillardes, et tous n'avaient pas perdu la vue dans la vieillesse. Sans doute la cécité couvre le monde, visible d'un voile qui enveloppe aussi le cerveau, en embarrassé en entravant son travail. Cependant, grâce aux images héréditaires, grâce aux impressions reçues par d'autres voix, le cerveau crée dans l'obscurité un univers à part, triste, désolé et sombre, mais qui n'est pas dépourvu d'une poésie confuse et originale. Maxime et le petit aveugle s'assirent sur le foin, tandis que Joachim s'étendait sur son banc. Cette pose correspondait le mieux à son inspiration poétique, et après avoir réfléchi un instant, il entama sa chanson. Fût-ce par hasard ou grâce à son instinct délicat, mais le choix en était bon. Il s'arrêta au tableau historique. Là-haut, là, sur la montagne, moissonnent les moissonneurs. Quiconque a entendu cette belle chanson populaire, bien rendue, en a certainement gardé, gravé dans sa mémoire, l'air étrange aux notes élevées et traînantes, comme voilées par la mélancolie d'un souvenir historique. On ne célèbre ni grands événements, ni batailles sanglantes, ni exploits héroïques. Ce ne sont même pas les adieux d'un Cosaque à sa fiancée, ni une incursion hardie, ni une expédition en canot sur la mer libre ou sur le Danube. Ce n'est qu'un tableau passager, ressuscité pour un instant dans les souvenirs d'un petit Prussien, comme un rêve obscur, comme un fragment de songe d'un passé reculé. Au beau milieu de sa vie journalière et commune, renaissait tout à coup dans son imagination ce tableau confus, vague, voilé de cette mélancolie particulière qu'exhalent les anciens jours de notre patrie, depuis longtemps disparue. Disparu, mais non pas sans laisser de traces, comme l'attestent les hauts tertres tumulaires où gisent les ossements des Cosaques, où à minuit s'allument des feux follets, où s'entendent des gémissements profonds, comme l'atteste la tradition populaire et la vieille chanson qui se chante de moins en moins. là-haut sur la montagne, moissonnent les moissonneurs. Et là-bas, là, ses pieds dans la verte campagne, où des sabots résonnent, passent les cosaques. Maxime s'oubliait en écoutant cet air mélancolique. Dans son imagination, évoquée par l'admirable mélodie si merveilleusement adaptée au sujet de la chanson, ce tableau surgissait comme éclairé par les reflets incertains du soleil couchant. Dans les champs paisibles, sur la montagne, silencieusement courbés sur la moisson, se profilent les silhouettes des moissonneurs. Et en bas, des détachements passent, un à un, muets, et se confondant avec les ombres crépusculaires de la vallée. Hôte de tous vient Dolotchenko, menant son armée, l'armée des apologues, la vaillante. Et la note traînante de la chanson, voix du passé, vacille, résonne et se perd dans les airs, pour retentir de nouveau, évoquée d'entre les ténèbres, des injures toujours nouvelles. L'enfant écoutait avec un visage triste et assombri. Quand le chanteur chantait la montagne où moissonnent les moissonneurs, son imagination transportait immédiatement Pietruccia sur le sommet de la falaise qu'il connaissait. Il la reconnaissait à la petite rivière qui clapotait à ses pieds, au choc léger des vagues contre les pierres. Il savait déjà ce que c'est qu'un moissonneur. Il entendait le bruit des faucilles et le murmure des épis tombants. Et quand la chanson disait ce qui se passait au pied de la montagne, l'imagination du petit aveugle le transportait immédiatement du sommet dans la vallée. Le bruit des faucilles se tait, mais l'enfant sait que les moissonneurs sont là, sur la montagne, qu'ils y sont restés, mais qu'on ne les entend pas, parce qu'ils sont en haut, aussi haut que les sapins dont il entendait le bruit quand il se trouvait au pied de la falaise. Et là-bas, près du fleuve, résonne le trépignement égal et multiplié du sabot des chevaux. Ils sont nombreux. Un bruit sourd et confus gronde là, dans l'obscurité, au pied de la montagne. Ce sont les cosaques qui passent. Il sait également ce que c'est qu'un cosaque. Tout le monde donne au vieux Khlodvo, qui passe de temps en temps à la métairie, le surnom de vieux cosaque. Plus d'une fois, il a pris Pietruccia sur ses genoux, caressé ses cheveux d'une main tremblante. Et quand le garçonnet, selon son habitude, lui tâtait le visage, il distinguait de ses doigts fins des rides profondes, de grandes moustaches pendantes et des larmes sur les joues creuses du vieillard. C'est ainsi que le petit aveugle se représentait les cosaques, sous l'influence des sons traînants de la chanson, là, au pied de la montagne, dans la verte campagne. Ils chevauchent sur leurs coursiers, tous aussi moustachus, aussi courbés, aussi vieux que Khretko. Ils avancent lentement dans l'obscurité, comme des ombres sans forme, et pleurent juste comme Khretko. Peut-être parce que, sur la montagne, aussi bien que sur la vallée, planent et soupirent les tristes et lentes notes de la chanson de Rovkim, la chanson sur l'insouciant cosaque qui laissa là sa jeune femme pour aller guerroyer. Maxime n'eut besoin que d'un coup d'œil pour constater que la nature délicate de l'enfant était accessible, malgré la cécité, aux images poétiques suggérées par une chanson.